cette année-là sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans l'émission Cette année-là, présentée par
Christina Fauta
et Elisabeth Couget. Et bien sûr, notre Simon est là pour nous aider à vous présenter tout ça. Alors, quelle année allons-nous revisiter et nous remémorer aujourd'hui, Christine ?
1973, une année déjà lointaine, dont un certain nombre d'entre nous n'ont que peu de souvenirs ou pas de souvenirs du tout. Mais une année charnière qui, on le verra en quelque sorte, changer la donne.
Alors, elle commence bien pourtant le 15 janvier, avec la visite de Golda Meir au Vatican.
Golda Meir est le premier ministre d'Israël depuis 1969 et c'est le premier chef d'État israélien à être reçu par le pape. Ce pape, c'est Paul VI, qui avait rencontré en 1964 à Jérusalem le patriarche Athénagoras, montrant ainsi sa volonté d'écuménisme et son ouverture.
Alors, le 27 janvier, une grande nouvelle, c'est un soulagement, le cessez-le-feu, enfin, entre les États-Unis et le Vietnam. Les États-Unis qui étaient engagés aux côtés des Sud-Vietnamiens depuis 1964, donc ça faisait déjà 9 ans.
L'accord est conclu à Paris. Les États-Unis ont 2 mois, 60 jours, pour retirer leurs forces. Le dernier marine quittera le Vietnam le 29 mars 1973. Et d'autre part, les prisonniers de guerre américains sont libérés. Mais en dépit des accords de Paris, la guerre va continuer jusqu'en 1975, quand les troupes du Nord-Vietnam prennent Saigon, qui va du coup s'appeler
Ho Chi Minh Ville.
Ho Chi Minh Ville, exactement. Et le pays sera unifié, un seul pays, le Vietnam, en 1976. Le bilan est très lourd. Il y a eu 56 000 GI qui sont morts au Vietnam du Nord sur environ un demi-million d'engagés, soit un peu plus d'un sur dix tout de même. Hein. Et alors les États-Unis ont dépensé des sommes colossales, 135 milliards, et en particulier en armes chimiques, car des millions de tonnes de défoliants ont été déversées pendant cette guerre sur le Nord-Vietnam.
Ah oui. Alors, tout cela, on sait maintenant, en pure perte. Voilà, il y en a une moralité finalement. Les États-Unis ne peuvent gagner toutes les guerres. Le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens restent maîtres du terrain.
Comme le diront plus tard les Vietnamiens, nous avons vaincu trois grandes puissances. La Chine, en 938, juste un petit peu avant l'an 1000. La France à Dien Bien Phu en 1954 et les Américains. Il y a de quoi être fier pour un petit pays, c'est vrai.
Ah oui. Alors en France, pour changer de cette ambiance de guerre, les films de Claude Sautet attirent le public. On va voir César et Rosalie avec Romy Schneider et Yves Montand.
Mais un drame marque les esprits le 6 février 1973. L'incendie du collège d'enseignement secondaire, CES, Pailleron, dans le 19e arrondissement à Paris, qui fait 21 petites victimes. En moins d'une demi-heure, le CES s'est effondré. Il avait été construit en un temps record en 1970, sans respecter les normes de sécurité. Et on s'inquiète beaucoup, car des centaines d'autres CES ont été construits sur le même modèle. C'est un garçon de 14 ans qui a avoué être l'incendiaire. Il voulait juste se venger de brimades.
Et oui, malheureusement, ça a fait beaucoup de victimes, effectivement. Le 27 mars, il y a l'Oscar du meilleur film qui est attribué au parrain de Francis Ford Coppola. Et l'Oscar du meilleur acteur est remis à Marlon Brando.
Mais Marlon Brando refuse ce prix du meilleur acteur en raison du traitement réservé aux Indiens dans les films et à Wounded Knee. Wounded Knee, c'est un endroit tristement célèbre car ça a été le lieu du massacre d'Indiens en 1890. Et Wounded Knee, dans le sud Dakota, est occupé par les Indiens depuis début mars 1973 et est assiégé le 6 avril par les forces de l'ordre. Comment cela se termine-t-il ? Nous le saurons un peu plus tard.
Un peu plus tard. En tout cas, Marlon Brando voulait montrer
sa solidarité
avec ces Indiens, bien entendu. Et ça serait peut-être le début des acteurs qui prouvent leur
engagement.
Engagement, oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment le cas avant. Hein. Alors, pendant ce temps, à Paris, s'ouvre l'exposition Soutine. Chaïm, bien sûr, pour les Chartrains, c'est important. Il l'a vécu dans la région, puisqu'il avait été l'hôte de Madeleine Castaing à Lèves, bien sûr. Et n'oublions pas qu'il était d'origine lituanienne et dont les toiles sont violemment expressionnistes.
Le peintre le plus célèbre de l'art moderne, plus célèbre que Soutine, s'éteint en 1973, le 8 avril, à Mougins, à l'âge de 91 ans. Et c'est Picasso.
Bien sûr.
Picasso est un ancien élève des Beaux-Arts de Barcelone et de l'Académie royale de Madrid. Et il a mené une existence fabuleuse à Paris, où il s'installe en 1904, d'abord au bateau Lavoir, à Montmartre, qui n'est pas un bateau.
Il n'était pas sur un bateau, voilà.
Non, c'est une résidence d'artiste. Voilà. Picasso a marqué une fantastique évolution dans la peinture, et il laisse aussi des milliers d'estampes, dessins, fresques, sculptures, près de 100 000 en tout.
Incroyablement prolifique. Hein. Alors, il était un des hommes les plus riches de son temps. Et il laisse un mystère, c'est son testament, puisqu'une bataille farouche pour l'héritage commence entre sa femme, son fils légitime et ses trois enfants naturels. Et d'une certaine façon, ça continue encore aujourd'hui. On trouve encore que c'était pas vraiment un nouveau testament, mais enfin, on trouve des dons qui apparaissent comme ça. On ne sait pas d'où, pourquoi.
Tu as raison, c'est une affaire qui fait encore
parler. Oui, c'est pas fini, voilà. Pas tout à fait terminé.
Alors, aux États-Unis, cette année-là, le Washington Post dévoile l'affaire du Watergate, c'est-à-dire l'effraction, quand même, du siège du Parti démocrate un an plus tôt, et met en cause des proches du président Nixon et le président lui-même. Affaire à suivre. D'Amérique nous vient aussi un des paroliers d'Elvis Presley qui décide de faire carrière en France. Il s'appelle Mort Schumann et chante en 1973 Le Lac Majeur.
Voilà, vous vous souvenez ? Il neige sur le Lac Majeur.
Il neige sur le Lac Majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement.
Voilà, on reprend maintenant et voilà, je vous ai privé de mon chant, bien sûr, c'était pas terrible. Et les Indiens assiégés à Wounded Knee continuent à essayer d'obtenir ce qu'ils veulent.
Oui, je rappelle que nous sommes en 1973 et non pas un siècle plus tôt.
Non.
Eh bien, on avait même acheminé des chars pour espérer les affamer. Mais finalement, l'âge de guerre est heureusement enterré en mai entre les Sioux et le gouvernement fédéral américain. Promesse tenue, on ne sait pas, car l'Amérique a les yeux fixés vers le ciel. Skylab 1, autrement dit le laboratoire de l'espace, 36 mètres de long, est parti dans l'espace le 25 mai en orbite autour de la Terre. Un équipage le rejoint par une capsule Apollo pour y faire des expériences scientifiques en apesanteur. Cette année-là aura lieu un autre exploit le 3 décembre. C'est la sonde Pioneer, américaine aussi, qui passe à 113 000 km seulement de Jupiter et donnera au monde les premières photographies de cette planète.
Alors, le 3 juin a lieu un tragique accident au salon du Bourget. Lors du meeting aérien, un avion supersonique soviétique, un Tupolev, le 144, explosera en plein vol et s'écrase sur Goussainville, dans le Val d'Oise, causant la mort de 13 personnes.
Est-ce la loi des séries ? Un avion de la compagnie brésilienne Varig s'écrase à Orly le 11 juillet. Heureusement, il y a aussi des nouvelles réjouissantes. L'école polytechnique s'était ouverte aux jeunes filles en 1970 avec une promotion qui n'est pas du tout paritaire. Il y avait 7 jeunes filles contre 315 garçons. Eh bien, cette promotion en 1973 a pour major une jeune fille, Anne-Marie Chopinet, et le président de la République, Georges Pompidou, vient en personne la féliciter.
Et il y avait trois quand même, hein ?
Bien sûr.
Le 23 juillet, aux États-Unis, il y a l'affaire Watergate prend de l'ampleur. Le président Richard Nixon entre en conflit avec la justice en refusant de communiquer les enregistrements.
Le 28 août, un terrible tremblement de terre secoue la ville de Mexico, qui est à 2000 mètres d'altitude. Et c'est en août aussi que disparaissent deux grands noms du cinéma. Jean-Pierre Melville, d'abord, le père fondateur de la Nouvelle Vague, toujours admiré, vous avez peut-être vu et aimé Le silence de la mer, ou bien Léon Morin prêtre. Il avait le sens du détail vrai. Et puis, c'était vraiment un cinéaste à part, parce que dans ses films, pas de vedettes et les budgets étaient réduits. Et après 1960, Melville va faire des films policiers comme Le Doulos ou L'aîné des fers chauds.
Et deuxièmement,
après Melville,
John Ford, voilà, c'est ça, c'est réalisateur d'origine irlandaise. Voilà dont on doit parler, puisqu'il a fait le fameux film La Chevauchée Fantastique, donc un western extraordinaire.
Oui. Et en septembre, on déplore la mort de Tolkien, qui est un écrivain britannique et auteur du Seigneur des Anneaux,
bien sûr,
dont
tout,
on entend
tout
toujours
connaît,
beaucoup,
sûr,
beaucoup parler
très
aujourd'hui,
présent, hein.
En film, en série, en roman, etc.
Ainsi que l'écrivain chilien Pablo Neruda, prix Nobel de la littérature en 1971, 2 ans avant.
Et qui avait dit cette phrase extrêmement optimiste, on peut se la rappeler dans les jours difficiles, le printemps est inexorable.
Voilà. Il arrive toujours. Il faut bien qu'il arrive quand même. Hein.
Un autre homme disparaît, le fantaisiste Fernand Reynaud, à 47 ans seulement, d'un accident de voiture. En 1951, Jean Nohain avait donné sa chance à ce fils d'ouvrier bien décidé à échapper à l'usine Michelin pour devenir comédien. Écoutons maintenant un sketch de France de Fernand Reynaud.
C'était vraiment au grand bonheur d'un grand nombre.
Moi, mon papa, il a acheté une nouvelle télévision. C'est une télévision qui est drôlement chouette. Et puis au-dessus, il y a le pick-up pour mettre la radio, puis dessous, il y a pour mettre les disques. Chouette, ça balance. Oh, maman, papa aussi, il a un grand meuble, alors. Même qu'il y a 2 télévisions, alors. Une en noir et une en couleur. Ouais, ça existe même pas. Ouais, mais quand ça existera, il sera le premier à l'avoir. Alors. Ah. Eh ben moi, mon papa, moi, il a un vélo. On te demande rien, toi. Fiche-nous la paix, laisse-nous causer tous les deux. T'as quoi, qui vient s'occuper de ce qu'il en regarde pas, lui. Puis maman, papa, il vient d'acheter une nouvelle voiture. Parce que la grosse, c'était pour aller en province, à la campagne. Puis alors maintenant, il en a acheté une petite pour aller dans Paris à cause des encombrements. Maman, papa, il y a longtemps qu'il a la petite pour aller dans Paris. Et puis il a la grosse pour aller dans notre propriété, qu'on a sur la Côte d'Azur. Puis même qu'il a une troisième voiture, lui, c'est pour ma maman. Ah. Mais moi, mon papa, il a un vélo. Mais il fait genou la peur, t'en as rien, oui. Moi, mon papa aussi, moi, il a une belle propriété. Mais c'est pas sur la Côte d'Azur, nous. Non, c'est dans les Alpes. Puis comme ça, l'hiver, eh ben, on va faire du ski. Et puis mon papa, ben, il nous filme pour bien épater les amis à Paris. Moi, mon papa aussi, il a une caméra. Même qu'il nous filme quand on fait du ski nautique. Non, quand on est en Méditerranée, à côté de notre propriété. Maman, mon papa, il a un vélo. Tu me la bête, ton vélo. Tu sais tout ce qu'il a, tu... Et toi, qu'est-ce que t'as? J'ai les yeux à mon pépé. Et puis, qu'est-ce que t'as d'autre? On me dit toujours que j'ai le nez à mes mémés. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'as, toi? T'as rien? Qu'est-ce que t'as? Moi, j'ai les culottes à mon frère.
Nous continuons toujours à égrener les années, les journées et les mois de 1973 dans notre émission « Cette année-là » sur Radio Grand Ciel. Alors, transportons-nous au Chili. Le gouvernement de Salvador Allende, socialiste, était dans une situation plus que difficile. Il y a l'inflation de plus de 100%, 1000%, les caisses sont bien entendu vides, et il y a des difficultés d'approvisionnement, et bien entendu des manifestations.
Allende annonce à la radio, il n'y a plus de blé, donc plus de pain, dans 3 jours. Le 11 septembre, coup d'État. L'armée, commandée par le général Augusto Pinochet, s'est rendue maître de Santiago, la capitale, à 11h le 11 septembre 1973, avec une étonnante rapidité, en s'emparant d'abord des émetteurs de radio et de télévision. Les deux filles d'Allende quittent le palais. Salvador Allende est retrouvé mort dans le salon, tué, suicidé, mystère.
On ne saura pas.
Une junte prend officiellement le pouvoir.
Je crois qu'on ne le saura jamais.
Non.
Un autre putsch a lieu cette année-là, cette fois-ci à Athènes, en Grèce, le 4 novembre 1973, où après d'importants troubles, un groupe d'officiers renversera le régime des colonels.
Le 16 septembre, Georges Pompidou est en Chine, où il rencontre Mao Tse-tung. Les relations se sont apaisées entre la France et la République populaire de Chine. D'ailleurs, la compagnie Air France vient d'établir 10 jours plus tôt une liaison régulière Paris-Pékin.
Mais le président français montre des signes de fatigue, hélas. Et la visite de la Grande Muraille sera annulée.
Nous voici au mois d'octobre 1973, un mois clé. Et dans ce mois clé, un de ces jours ordinaires dont on comprend plus tard qu'ils ont tout changé. C'est encore l'été indien des 30 glorieuses, quand le samedi 6 octobre, tout bascule.
Et oui, sur un plan individuel d'abord, il y a le pilote français de Formule 1 que vous n'avez sûrement pas oublié. François Sever, le beau François, se tue à 29 ans lors des essais du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen. Il est mort sur la même piste où il avait 2 ans plus tôt gagné le Grand Prix de Formule 1.
On le surnommait le prince. Sa grâce naturelle, ses longs cheveux noirs ébouriffés, son sourire ravageur, ses yeux bleus profonds comme l'océan, il avait tout de l'icône de la perfection masculine version 70s. Il avait été photographié aux côtés de Brigitte Bardot. Il avait déjà eu droit à sa radioscopie par Jacques Chancel.
Ah oui, c'était pas rien. Hein.
Mais oui,
c'était pas donné.
Et on l'imaginait bientôt champion du monde. Une vie fracassée ce 6 octobre 1973.
Oui, il était un très bon joueur de piano aussi. Donc c'était quelqu'un d'étonnant. Et effectivement, on continue à le regretter, vous voyez. Alors, et ce même jour, donc c'est le jour de Yom Kippour, importante dans la tradition juive, les armées syriennes et égyptiennes vont déclencher l'ensemble une attaque surprise sur le plateau du Golan et dans le Sinaï, les territoires occupés par Israël depuis 1967 quand même. Hein.
La guerre du Kippour commence. Israël contre-attaque deux jours plus tard avec des raids vers les villes du Caire et de Damas et au Liban. Les Israéliens repoussent les Syriens et percent le front égyptien. Les États-Unis et l'URSS tentent d'apaiser le conflit tout en fournissant abondamment des armes aux pays en guerre. Un cessez-le-feu est tout de même négocié le 25 octobre grâce à Henry Kissinger et Alexei Kosygin.
Voilà, le chef de russe à l'époque. Oui. Mais dans la foulée, le 17 octobre, l'OPEP, organisation, comment tu le dis exactement,
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Voilà, ouais. C'est ça. A décidé de réduire progressivement ses ventes de pétrole, tandis que les Israéliens occuperont des territoires arabes. La crise du pétrole se profile, hélas, à l'horizon.
Le 22 octobre, s'éteint un grand violoncelliste, Pablo Casals, à 96 ans. Il est né en 1877. Enfant prodige, il jouait à 4 ans du piano, du violon et de la flûte. À 5 ans, il commençait à composer. En 1899, à Paris, Charles Lamoureux, dont on se souvient peut-être des concerts
Lamoureux,
pour faire connaître la musique classique, Charles Lamoureux découvre le talent exceptionnel de ce jeune virtuose et le révèle. Grand défenseur des libertés, Pablo Casals s'était dressé contre la dictature de Franco. Et maintenant, un moment de sérénité avec le signe de Saint-Saëns joué par Pablo Casals.
Après ce moment de sérénité, comme tu disais, à Paris, nous nous retrouvons en 1973, le 5 novembre. Le public applaudit la première de Harold et Maude, avec Madeleine Renaud dans le rôle de Maude au théâtre. C'est une histoire d'amour improbable entre un garçon de 19 ans et une vieille dame de 80.
Le 14 décembre, happy end pour le petit-fils du milliardaire américain du pétrole, Paul Getty III. Après 5 mois de kidnapping, il est retrouvé vivant près d'un péage sur une autoroute italienne au petit matin.
Avec une oreille en moins quand même, adressée par les ravisseurs à un journal auparavant. Sa famille avait rançon de 17 000 millions de lire. Je ne pourrais pas vous dire ça fait combien d'euros, mais ça fait beaucoup, au lieu des 10 milliards qui ont été exigés quand même.
Un rabais énorme, oui, tout de même, heureusement. Voilà. En Espagne, le 20 décembre, le chef du gouvernement espagnol, l'amiral Luis Carrero Blanco, est victime d'un attentat spectaculaire. Alors qu'il sortait d'une église où il avait assisté à la messe, sa voiture explose, le tuant sur le coup. L'ETA, organisation basque clandestine, revendique l'attentat. L'ETA a été créée en 1959 et a sévi jusqu'en 2013, très très longtemps, plus de 50 ans, date de sa dissolution. Et l'ETA a causé la mort de 829 personnes, sans compter les blessés, les enlèvements, les extorsions de fonds.
Une tension de peur et d'angoisse et d'inquiétude constant, oui, c'est ça. Le 24 décembre, les États du Golfe décident de doubler le prix du pétrole. Et ça passait de 5 dollars à 11 dollars, plus que doublé d'ailleurs, à 11 dollars le baril. C'est une mesure qui risque de bouleverser les pays qui dépendent totalement du bon vouloir de l'OPEP comme nous. Alors pour la France, cette hausse brutale signifie 25 milliards de dépenses supplémentaires. C'est là qu'on a dit les Français n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées, parce qu'on trouvait des idées.
On en a toujours,
des idées. On a toujours, voilà, des idées, on n'a pas toujours.
La France des années Pompidou bascule à la fin de 1973 dans la crise du pétrole. Cette année-là aussi naissent Sergey Brin et Larry Page, les inventeurs de Google. Une page se tourne. C'est la fin des 30 glorieuses et de l'expansion infinie. 1973 annonce le pire et le meilleur de ce que nous sommes désormais, ce qu'on aurait dû voir et qu'on n'a pas compris. Ce qui n'empêchait pas cette année-là de rire aux éclats aux aventures burlesques de Rabbi Jacob, alias Louis de Funès.
Voilà, au revoir, merci de nous avoir écoutés. À bientôt
pour une prochaine émission.
Une autre année.
Pour évoquer une nouvelle année avec Elisabeth.